et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Et oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous en ce lundi de Pâques avec nous dans l'émission Cannabis Circus sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et donc ce soir, encore pas mal d'infos par rapport au sujet du cannabis, comme tous les lundis soirs à cette antenne. Nous allons faire une petite revue de presse de l'actualité cannabique, nationale, internationale. On va se promener un petit peu, on ira en France avec quelques faits divers. On ira aussi en Suisse, où de plus en plus de villes, notamment les grandes villes, réfléchissent à la mise en place d'un système régulé d'accès au cannabis. On verra un petit peu de quoi il s'agit. Quelques infos au sujet de pétitions qui circulent en ce moment sur Internet. Des infos au niveau de la police aussi, de ce qui se passe un peu dans les administrations, de la lutte contre le trafic. On verra ça avec un article du Canard Enchaîné très intéressant. La guerre contre la drogue de Nixon était un mensonge qui visait à casser la communauté noire. Un article très intéressant de Slate.fr. On ira toujours aux États-Unis. On verra un peu ce qui se passe pour les minorités qui veulent rentrer dans le système de vente du cannabis légal. Tout le monde n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. On verra un peu quel sort est réservé aux Noirs, notamment aux États-Unis. On ira également au Maroc, où à Tanger se tenait il y a une dizaine de jours un colloque international sur le cannabis et les drogues. Et puis, on finira avec cet article intéressant de Marie-Claire, quand le cannabis se transforme en miel. Voilà. Avant de partir en musique, quelques petits faits divers en France, notamment dans Lyon. C'est le nouveau détective qui nous parle de ce cas d'un homme de 78 ans qui comparaissait devant le tribunal d'Auxerre le 16 mars dernier. Donc un homme qu'on ne peut plus considérer comme étant un jeune, à 78 ans. Papy Labeu, comme certains l'avaient surnommé au palais de justice de Lyon. Voilà, c'est l'histoire donc de cet homme de 78 ans qui faisait pousser du cannabis, et pas qu'un peu, dans sa cave. Notamment suite... la police s'en est rendu compte à la suite d'un accident survenu à son domicile dans Lyon. Les gendarmes qui étaient venus chez le septuagénaire avaient découvert par hasard dans sa cave plus de 300 pieds de cannabis, ce qui n'est pas rien, avec tout le matériel qu'il fallait pour le cultiver, le sécher et le conditionner. Plus tard, l'homme avait déménagé avec sa femme un peu plus loin, en Côte d'Or, à Champeau en Morvan. Il n'avait pas été inquiété par la police, par la gendarmerie, suite à la découverte des 300 pieds de cannabis. Mais il y avait quand même toujours des recherches qui étaient, des enquêtes qui étaient menées contre cet homme. Et là, en Côte d'Or, les gendarmes, cette fois-ci, sont retournés chez lui. Et cette fois-ci, ils ont découvert 467 pieds de cannabis. Donc voilà, l'individu en question s'est justifié au tribunal en disant qu'il s'était retrouvé sans argent, avec perte d'emploi de sa femme. Et donc ils n'avaient pas d'autre choix que de faire quelque chose, faire pousser du cannabis pour rembourser les crédits de la maison. Ça n'a pas forcément ému le tribunal. Il s'est quand même retrouvé avec une condamnation de 3 ans de prison ferme et placement en détention. Et son épouse de 63 ans a quand même écopé de 10 mois avec sursis pour complicité. Et leur maison évaluée à 69 000 euros ainsi que le cabriolet de madame ont également été confisqués. Voilà, donc... un fait divers un peu malheureux. Et un autre, Alors ça se passe pas loin d'ici, à Saint-Étienne. C'est l'histoire d'un CRS de 51 ans qui était poursuivi par la police. Un CRS de 51 ans qui est CRS depuis 25 ans, hein, qui était poursuivi pour avoir fait pousser du cannabis. Voilà, il justifiait cette culture pour soigner ses maux de tête récurrents. Mais il a pas, apparemment, il n'aurait pas consommé les plants qu'il a fait pousser. Il a d'ailleurs même réfuté l'utilisation pour un usage personnel à la barre du tribunal. Et il a fini par dire qu'il n'avait finalement pas vraiment eu l'intention de fumer ses plants et que de toute façon, il n'était pas viable. Alors, on n'en sait pas plus dans cet article de 20 minutes du 16 mars. Il a quand même pris une amende de 600 euros. Ce qui est quand même peu cher payé. Et en plus, ces justifications, visiblement, ne semblent pas avoir été particulièrement contredites à la barre du tribunal. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est CRS. Il y en a d'autres, généralement, qui s'en sortent un peu moins bien. Voilà, un petit peu ce qu'on pouvait voir un peu dans l'actu des faits divers au niveau des arrestations. Il y en a d'autres, hein, toutes les semaines, il y en a même beaucoup des personnes en France qui se font arrêter pour une culture de cannabis à domicile. Il faut être discret si vous choisissez cette option. Visiblement, tous et toutes ne le sont pas. On va revenir plus tard dans cette émission sur des implications de la police par rapport à la culture, à la consommation, au trafic de cannabis. On va voir qu'ils ne sont pas tous impliqués au même degré et pour les mêmes raisons. Voilà, tout de suite on part en musique et on revient un petit peu après pour continuer cette revue de presse. À tout de suite. Yes. Voilà, c'était Improvisators Dub avec le titre Problems. On retourne tout de suite à l'actu avec cette revue de presse de ce lundi de Pâques, lundi 28 mars 2016. Qu'est-ce qu'on pouvait lire dans la presse ces dernières semaines ? Eh bien, c'était dans GQmagazine.fr, la consommation de cannabis, médaille d'or pour la France. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui a réalisé un classement de la consommation de cannabis par pays et par âge, eh bien, devinez qui arrive en tête à la première place, c'est la France. Alors, il n'y avait pas qu'en Europe qu'on avait organisé cette petite étude. Ça a été mené dans 42 pays dans le monde, alors en Europe notamment, mais aussi au Canada et en Israël. Alors que la moyenne internationale se situe à 15% de la part de la population âgée de 15 ans ayant déjà consommé du cannabis, la France expose le record avec un taux moyen de 29% pour les garçons et 26% pour les filles. Donc un taux extrêmement élevé, voilà, c'est formidable dans le pays où on criminalise quasiment le plus l'usage de drogue, l'usage du cannabis au monde. C'est pas glorieux. Alors là, en plus, on nous dit que c'est pas uniquement une question d'expérimentation dans ces chiffres, mais bien une consommation aussi régulière. Et là encore, les petits Français, à savoir 16% de garçons et 14% de filles, sont les plus nombreux à avoir fumé de l'herbe au cours des 30 derniers jours. S'ils ne s'arrêtent pas non plus une fois après avoir commencé, ils remportent aussi la palme de la jeunesse la plus précoce quand il s'agit de tester le cannabis. Ils se placent bon 7e à 4% de filles et 6% de garçons qui déclarent avoir fumé leur premier joint à 13 ans ou moins. Alors il y a une tendance assez éloquente qui se dégagerait au creux de cette étude, c'est pas très surprenant que les garçons fument plus que les filles. Exception faite pour la Hongrie, apparemment, où là, ce serait plutôt les filles qui fumeraient plus que les garçons. On nous dit aussi dans cette étude que la consommation de cannabis semble entretenir un lien avec la catégorie socio-professionnelle des parents. Ceci, à mon avis, est un petit peu plus discutable et devrait quand même être vérifié. Parce qu'il y a quand même pas mal d'autres études qui montrent quand même qu'on fume du cannabis dans à peu près tous les milieux sociaux et qu'on n'en fume pas uniquement dans les milieux les plus populaires. Voilà. Ensuite, toujours un peu dans le même genre, c'est dans ecomnews.fr, là on nous parle d'une étude qui aurait été faite par l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, une institution française, qui aurait donc minutieusement étudié le marché hexagonal des stupéfiants. Et donc l'Institut National estime le marché de la drogue en France à 2,3 milliards d'euros. Alors apparemment, ce qui est un petit peu différent dans cette étude, c'est qu'on ne se base pas ici sur les cas de procédure policière ou judiciaire, mais plutôt on part plutôt de la demande de la consommation en fait des consommateurs. Voilà. Selon les experts de l'Institut parisien, le chiffre clé de cette étude concerne le marché français de la cocaïne. Donc, d'après les experts, ce chiffre aurait doublé entre 2005 et 2010 pour atteindre désormais 900 millions d'euros. Les analystes parlent également du marché du MDMA, des amphétamines, qui est quand même apparemment pour le moment marginal, mais qui augmente sans cesse. Et par contre, l'économie de la drogue illicite en France, des drogues illicites en France, semblerait dominée par le cannabis et la cocaïne, qui représentent 85% du chiffre d'affaires global. Mais le cannabis est de loin le produit le plus consommé, avec 17 millions de consommateurs. Là, 17 millions de consommateurs, donc on n'est pas à 4 ou 5 millions. Pour un chiffre d'affaires estimé à 1,1 milliard d'euros, soit 48% du marché global de la drogue. On nous parle du Maroc également, qui alimenterait les trois quarts de la consommation française. On nous dit aussi, un peu comme ce qu'on peut lire un peu partout, qu'il serait plus dosé, mais plus cher, avec un prix qui a augmenté de 25%. En ce qui concerne la cocaïne, le marché français est en pleine expansion pour atteindre un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, soit 38% du chiffre d'affaires global. Que les consommateurs seraient estimés à 2,2 millions de Français. Le rapport précise aussi que ce marché est en voie de démocratisation. Le marché européen serait désormais bien plus rentable que celui nord-américain au niveau de la cocaïne. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, c'est que dans cette petite partie-là, on ne nous parle pas du tout des autocultivateurs en France, qui sont quand même assez importants. Je ne suis pas sûr qu'on ait une mise à jour des données là-dessus. Les dernières données qu'on a qui seraient assez sérieuses, c'était quand même il y a à peu près 10 ans, même si quand même d'autres études de l'OFDT qui tendraient à quand même à quantifier cette, ce nombre d'autocultivateurs. Là, par contre, il n'est pas du tout pris en compte dans le calcul. On parle juste des trois quarts de la consommation française assurée par le Maroc, ce qui sous-entendrait qu'il n'y aurait qu'un quart de l'approvisionnement en cannabis ou en herbe qui serait effectué par les autocultivateurs. Voilà, je suis pas sûr qu'on soit vraiment exact là-dedans, quoi. Voilà, mais bon, à voir. Ensuite, on va aller faire un petit tour en Suisse avec un petit article du matin.ch de mi-mars où on nous dit que la ville de Berne réfléchirait de plus en plus sérieusement à mettre en place un système de distribution encadré de cannabis. La ville réfléchirait à présenter un projet pilote de distribution régulée de drogue douce, peut-on lire. Voilà, alors où est-ce qu'on pourrait s'approvisionner dans la ville de Berne? Là, on parle carrément de cannabis en pharmacie. Il y aurait aussi une collaboration de prévue avec les villes de Genève, de Zurich et de Bâle, avec des variantes. Voilà. Alors, par exemple, à Genève, on privilégierait un peu plus les clubs de fumeurs. Après, prévu sur 3 ans, le projet bernois doit encore obtenir le feu vert de la commission d'éthique cantonale puis de l'Office fédéral de la santé publique, donc c'est pas gagné, avec une mise en application prévue dès 2017. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passerait? Eh bien, les fumeurs de cannabis qu'ils souhaiteront pourront s'inscrire pour participer au projet suivi par l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne. Les conditions d'admission seraient les suivantes. Il faudra être soi-même consommateur, domicilié à Berne et avoir 18 ans révolus. Tout ça pour éviter le tourisme du cannabis, tout en luttant contre la criminalité et le marché noir. Les fumeurs qui seraient inscrits pourraient s'approvisionner en cannabis de qualité contrôlée, à un prix déterminé en quantité limitée, soit environ 15 grammes par personne et par mois. Alors l'ambition, c'est de recruter 1 000 000 de consommateurs bernois. Sur 4 000 fumeurs de cannabis réguliers, le but à plus long terme, c'est de fournir des arguments pour une légalisation au niveau fédéral. Toujours en Suisse, c'est le chef de la police judiciaire de Neuchâtel qui s'exprimait dans RTS.ch, Olivier Guénia, dont on a déjà parlé. Hein. Alors, il est chef de la police, mais il est aussi criminologue. Et lui, il dit carrément qu'il faut changer de politique sur les drogues. Si on veut obtenir des résultats, il faut arrêter le modèle prohibitif, parce qu'on l'a vu, la guerre contre la drogue est un échec. Le chef de la police de Neuchâtel, c'est pas rien. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut sortir de cette vision dépassée qui date des années 50, qu'il faut revoir la vision du monde sur la drogue. Il prend exemple sur l'alcool, par exemple, en disant que des études montrent que l'alcool est plus dangereux que certains psychotropes, mais qu'il est par contre autorisé et réglementé. Donc il pose la question, pourquoi les drogues? Pourquoi pas les drogues? Point d'interrogation. C'est vrai que on peut quand même se poser la question. Ça fait déjà longtemps qu'on se la pose au cirque ou chez les anti-prohibitionnistes. Il va bien falloir qu'à un moment, on arrive quand même à faire avancer ce débat qui stagne, voire qui recule depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc il explique aussi que si certains psychotropes s'obtiennent de manière légale, à l'instar de la proposition donc, de la ville de Berne, comme on vient d'en parler, à propos de la vente de cannabis en pharmacie, bah, il dit tout simplement les taxes perçues permettraient d'améliorer la prévention et par conséquent de réduire la consommation. Voilà un peu ce que nous disait donc Olivier Guénia, chef de la police judiciaire de Neuchâtel et aussi criminologue. Maintenant, on va traverser l'Atlantique avec cette information un peu surprenante qui nous vient de Colombie, un article qu'on pouvait lire dans voixafrique.com qui nous parle de ce qui se passe en Amérique latine. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la Cour suprême de Colombie qui a récemment acquitté un soldat qui avait été condamné pour avoir transporté une quantité de marijuana supérieure à celle autorisée pour sa consommation personnelle, considérant qu'il était dépendant. Voilà, ça paraît assez incroyable. Alors déjà, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Colombie, il y a depuis quelques années une dépénalisation de la possession de petites quantités de cannabis. Donc voilà, c'est déjà un progrès. Mais en 2011, il y a un soldat, donc prénommé Yezid Alexander Arias, qui avait été surpris dans sa caserne avec 50 grammes de cannabis sur lui, et qui avait été condamné en 2012 à un peu plus de 9 ans de prison pour trafic, fabrication ou transport de stupéfiants. Donc une personne, normalement en Colombie, est autorisée à détenir jusqu'à 20 grammes pour sa consommation personnelle, lui en avait 50. Le militaire avait démontré en fait qu'il était devenu très tôt dépendant et consommateur de marijuana, et que la quantité retrouvée, qui dépassait donc sa dose personnelle, devait être considérée comme un approvisionnement. Voilà ce qu'avait conclu le juge Eugenio Fernandez Carlier dans sa décision du 9 mars dernier, et publiée lundi soir. Il ajoutait: la quantité retrouvée sur lui était raisonnablement celle dont il avait besoin et pouvait donc être vue comme une dose autorisée constitutionnellement et légalement. Monsieur Pinto est dépendant depuis l'enfance aux psychotropes, et étant donné que ce soldat devait partir en patrouille dans la localité de Coromoro, à l'est du pays, où il lui serait difficile de se procurer de la marijuana, cela constituait une raison valable pour détenir la quantité retrouvée, a donc conclu le juge. Les personnes dépendantes, donc le ministère public rajoute que les personnes dépendantes qui transportent des psychotropes exclusivement pour leur consommation personnelle ne peuvent être jugées, et ce indépendamment des quantités transportées. Voilà ce qu'avait déclaré l'un des responsables du ministère public à la presse, et d'ajouter qu'il s'agit d'une décision moderne et cohérente avec une politique criminelle et de répression du trafic de drogue qui poursuit les grands trafiquants et non les personnes vulnérables, avait-il ajouté. Il faut savoir qu'en Colombie, il y a quelques 50 000 procès liés à des affaires de possession de stupéfiants qui sont comptabilisés chaque année par le ministère public, qui nous dit aussi: un effort qui induit une perte d'énergie pour le système judiciaire. La Colombie qui a autorisé, on le rappelle aussi dans cet article, le 22 décembre dernier, par un décret présidentiel, l'usage thérapeutique du cannabis. Ce décret permettant l'octroi de licences pour la possession de semences de cannabis, de marijuana et de la culture. Et la culture de cette plante à des fins exclusivement médicales et scientifiques. Par contre, en revanche, la consommation sur la voie publique et la commercialisation restent interdites. Donc voilà, une décision pour le moins on ne peut plus humaine, pleine de reconnaissance de la situation de ce soldat. Ça fait presque rêver quand on lit des choses comme ça, quand on sait qu'en France, malheureusement, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes, notamment des jeunes, bien souvent des jeunes Français issus des quartiers défavorisés, sont poursuivis par la police et sont emprisonnés. Il y en aurait entre 500 et 1000, peut-être 1500 par an en France chaque année. Alors que là, voilà, dans ce pays, il y a une quantité légale hein, qui a été instituée à quelqu'un qui dépasse la quantité, mais on le sent vulnérable et addict. Du coup, on le sanctionne pas, on tient compte de sa situation. C'est humain, et on peut que féliciter les autorités colombiennes d'agir ainsi. Donc, comme vous le constatez, il se passe, on le dit chaque semaine, hein, il se passe quand même beaucoup de choses sur l'actualité des drogues aujourd'hui dans le monde. Il y a bien évidemment la pétition du cirque qui circule actuellement, une pétition qui réactualise en fait l'appel du 18 juin, initialement lancé en 1976 par différentes personnalités dans le journal Libération. Appel qui donc est remis au goût du jour aujourd'hui et qui appelle à sortir le cannabis, encore une fois, de la prohibition. Le cirque n'est pas la seule organisation à réclamer un changement de politique sur les drogues. Il y a également deux professionnels des addictions qui viennent de prendre cette position. C'est notamment ce que déclare le cirque dans un communiqué de presse de samedi dernier. C'est donc Michel Hautefeuille, hein, qui est un addictologue, et le docteur Emma Viviorca, qui est psychiatre. Alors Hautefeuille est également psychiatre, et qui d'ailleurs ont publié il y a 2 ans un ouvrage intitulé « La légalisation des drogues, une mesure de salut public » qu'on peut se procurer aux éditions Odile Jacob, si ça intéresse les amateurs de lecture. Donc, je vais vous lire le communiqué de presse du cirque. Donc, malgré les 676 millions d'euros consacrés à la lutte contre la drogue, la France est un des derniers pays d'Europe en termes de consommation de cannabis, un des premiers pays d'Europe, pardon, en termes de consommation de cannabis, derrière le Danemark et devant les Pays-Bas. Malgré 45 années de prohibition, il n'a jamais été aussi facile de se procurer de la drogue. La prohibition est en réalité du laxisme, de la démission, de la paresse intellectuelle. C'est prôner encore et toujours plus de répression quand celle-ci est un échec si cuisant. C'est nier le problème, confondre intentionnellement l'usage de drogue avec la maladie addictive, renvoyer l'usager à son statut de délinquant. La seule alternative intelligente à la situation actuelle est la légalisation des drogues. La légalisation des drogues est tout l'inverse du chaos actuel. C'est se doter d'un arsenal juridique pour contrôler la composition, le prix et la distribution des produits dans le cadre d'un monopole d'État. C'est interdire l'accès des jeunes, des produits aux jeunes qu'on a le devoir de protéger. C'est redéployer les moyens de l'État pour faire enfin une véritable politique de prévention et de protection des mineurs. Légaliser, c'est mettre fin au profit des mafias, mettre fin aux incivilités et à la violence dans les banlieues, mettre fin à la circulation de produits rendus dangereux parce qu'ils sont fabriqués par des labos clandestins. Les pouvoirs publics savent que des centaines de milliers de personnes consomment des drogues et que des produits frelatés circulent. Ils abandonnent également en toute impunité le profit du cannabis, du commerce de la drogue aux mafias. Légaliser les drogues, c'est reprendre le contrôle du commerce et des consommations, respecter et aider les usagers, ces centaines de milliers de Français qui chaque jour utilisent des drogues sans en faire une maladie. L'usage de drogue n'est pas une chose anodine, mais c'est justement parce que les drogues sont dangereuses qu'il faut les légaliser pour en assurer le contrôle. Voilà. Donc, c'est donc deux addictologues, Hautefeuille et Viviorca. On va reparler un petit peu après la pause musicale de ces addictologues qui ont lancé une pétition donc, demandant un changement de politique sur les drogues. Mais il n'y a pas que ces addictologues, il y a aussi la fondation FAAAT, Fondation Antonin Artaud, pour une approche alternative de l'addiction et des toxicomanies. Je vous en dis pas plus, on écoute un peu de musique et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Jeté sur la bécane, fait-elle produire que je sorte complètement bouillard? Le temps d'aller c'est pas un coup. Tu m'as pourri mon jeu doux. Et tu t'es cassé bien Irish. Chasser là les mâles dans la prairie.
C'était les Ludwig, Ludwig von 88, avec le morceau Pocahontas. Alors, avant de repartir dans des choses un peu sérieuses, on va parler de choses un peu plus triviales avec cet article de Marie-Claire du 14 mars dernier. Et oui, dans Marie-Claire aussi, on parle parfois de cannabis. Quand le cannabis se transforme en miel. Non, non, vous ne rêvez pas si vous suivez un peu l'actu du cirque qui circule sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous avez peut-être vu cet article passer dernièrement. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il plutôt, en fait? Bah, il s'agit de Nicolas Trainerbees. Je le prononce comme ça parce que ça veut dire quelque chose. Trainerbees, ça veut dire entraîneur ou éducateur d'abeilles, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc ce Nicolas Trainerbees, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a appris plusieurs choses à ses abeilles, et notamment collecter le sucre des fruits plutôt qu'utiliser les fleurs. Il nous dit comme ça, j'ai voulu leur apprendre à obtenir cette résine en produisant pour ce premier échantillon de miel à base de cannabis. Donc ce Nicolas Trainerbees, comme il aime se faire appeler, a concilié sa passion pour les animaux, les lézards, les tarentules et les abeilles, avec son militantisme pour le cannabis thérapeutique qu'il consomme lui-même depuis l'enfance pour soigner son hyperactivité. Mais à ce jour, il semblerait que Nicolas Trainerbees soit le seul connu pour maîtriser justement ce savoir-faire de la même façon qu'aucune étude n'a jamais été réalisée sur ce type de production. Les défenseurs de la cause animale seront rassurés de savoir que les abeilles n'ont pas de système endocannabinoïde qui participe aux effets du cannabis sur le système nerveux et que par conséquent, le THC et tous les autres cannabinoïdes n'ont donc aucun effet sur elles, donc pas d'effet sur les abeilles. Son miel a été décrit sur le site Newsweed par l'apiculteur comme délicieux et agréable avec un goût qui rappelle la plante fraîche et dont l'odeur est très florale. Alors, ce miel est également psychoactif pour les humains, hein, il faut quand même le dire. Monsieur Trainerbees produit par conséquent ce miel en toute illégalité, hein, malgré le soutien des apiculteurs qui restent admiratifs et des consommateurs de marijuana, bien évidemment. Ce dernier envisage de migrer en Espagne pour faire pousser ses plantes en pleine nature qu'il doit aujourd'hui transporter près des ruches pour que les abeilles récoltent leur pollen. Marie-Claire finit l'article en nous rappelant qu'en France, la consommation et la culture sont totalement interdites, alors qu'en Espagne, la culture du cannabis est une activité qui ne peut être sanctionnée au niveau pénal que si elle est menée à des fins de trafic, tout à fait exact comme information, excluant ainsi la culture de marijuana pour sa consommation personnelle. Nicolas Trainer-Bees souhaitera également se rapprocher des professionnels du secteur de l'apiculture pour qu'ils l'aident à analyser son miel et ensuite peut-être éventuellement développer sa production. Donc un miel que nous ne sommes pas encore prêts de voir figurer dans les rayons ou les étals de nos magasins, grandes, petites, moyennes surfaces ou épiceries bio. En tout cas pas tout de suite. Voilà, mais en tout cas, il y en a un qui a déjà pensé et qui a même la maîtrise de tout ça, de toutes ces procédures pour que les abeilles fassent du miel de chanvre 100% et en plus psychotrope qui pourrait effectivement être une solution thérapeutique pour certains malades. Voilà un peu pour l'info culinaire gastronomique. De ce lundi de Pâques, faites des œufs de Pâques, voilà, des bonnes sucreries, mais aussi du miel au cannabis peut-être bientôt. On va retourner à une actu un peu plus sérieuse, entre guillemets. Hein, disons que c'était la petite parenthèse enchantée de la soirée. Alors maintenant, on va s'intéresser à un article du Canard Enchaîné de mercredi dernier, du 23 mars dernier. Donc. Il s'agit du patron de la lutte anti-drogue qui aurait été remercié. Son nom, François Thierry, qui était jusqu'à très récemment le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Donc c'est l'OCRTIS. Actuellement, ce monsieur n'est donc plus le directeur. On lui cherche un remplaçant et apparemment, même ses amis du haut du poulailler se feraient une raison, d'après le Canard Enchaîné, car l'inspection générale de la police nationale enquêterait discrètement sur les drôles de combines des flics de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Ils ont manqué à toutes les règles de la doctrine d'emploi et fait rentrer bien plus de drogue qu'ils n'en ont saisi, résume un haut magistrat. Un commissaire accuse l'OCRTIS, deal avec certains trafiquants, c'est donnant-donnant, tu nous balances tes concurrents, on te laisse faire ton business. Voilà un peu jusqu'à présent comment ça fonctionne, ça fonctionnait. Et les autorités politiques étaient toutes heureuses d'annoncer des saisies records à répétition. Dernièrement, c'est François Hollande qui s'est fait prendre au jeu, posant avec la police un jour à Marseille, un autre à Paris et saluant un coup fatal porté au trafic. La bonne blague. Alors, c'est l'article du Canard Enchaîné que je vous lis. Ce n'est pas un communiqué de presse du cirque, je le précise. Mais il ne faut pourtant pas être énarque pour constater, comme le fait cet officier passé par les stupes, que, je cite, si les saisies augmentent mais que le prix de la drogue sur le marché reste le même, c'est qu'il en rentre bien plus. Et ça, on le doit à l'OCRTIS et à François Thierry. Une accusation que cherche à vérifier l'inspection générale de la police nationale, hein, les boeufs carottes pour les intimes. Hein. Ils ont commencé à mijoter après la plainte d'un caïd, Christophe M., qui s'est fait prendre à l'occasion d'un stupéfiant échange de marchandises, shit contre coke, entre la métropole et les Antilles, dont le Canard avait déjà parlé le 30 décembre dernier. Les magistrats instructeurs ont découvert que les livraisons avaient été facilitées par la police. Et le 2 juillet, la chambre d'instruction a annulé la totalité de la procédure, estimant qu'il y avait bien eu provocation policière et intervention active des flics de l'OCRTIS pour que le shit arrive sans encombre aux Antilles et la coke jusqu'à Roissy, Charles de Gaulle. Les deux informateurs ont fini par reconnaître devant les juges, je cite, « Avant chaque convocation de la justice, je demande à l'OCRTIS ce que je devais dire ou ne pas dire. C'est beau la confiance. » En matière de stup, le tonton ou l'indique, le dealer, le trafiquant et le flic se confondent facilement. De ce point de vue, l'histoire des 7 tonnes 98 de shit retrouvées le 18 octobre dernier boulevard Exelmans à Paris était différente. Un camion bourré de cam était garé devant le domicile du dealer. Ce sont les douanes qui mettent la main sur le chargement. Ils préviennent l'OCRTIS qui se saisit de l'affaire. Mais le procureur de Paris, méfiant, préfère filer l'enquête à la brigade des stupes. Ces limiers découvrent vite que le dealer trafiquant du boulevard Exelmans est aussi un tonton de l'OCRTIS et que lui et ses copains ont fait passer sans dommage 1 tonne 9 de résine de cannabis du côté de Nantes et 6 autres tonnes à la frontière franco-belge. En réalité, selon une source policière, nous en avons récupéré, alors je cite, hein, nous en avons récupéré 15 tonnes, mais il en avait autant, sinon plus, qui sont passés. Des tonnes revendues par l'Indic, dealer de l'Octis. Nous sommes bien conscients, dit un magistrat, que toutes les affaires de stup voient le jour sur la base de renseignements, mais que quand le tonton constitue un élément nécessaire au trafic, ah, y a quand même comme un souci. Si ce tonton a beaucoup donné à François Thierry, c'est qu'il lui devait beaucoup. Le flic l'a recruté à la faveur d'un procès. Il avait pris 13 ans pour trafic de shit avec le Maroc. En fait, il n'en a fait que 5 avant de sortir en libération conditionnelle. Faut dire qu'il avait une bonne avocate, qui n'est autre que l'intime du patron de Locrotis. Eh oui, il lui a fourni des faux qu'elle a transmis au juge de l'application des peines, se désole aujourd'hui un magistrat. Un autre tonton a été entendu récemment par les boeufs carottes. N'ayant pas touché ce qui lui était promis, il s'est mis à balancer et à confier avoir été témoin dans un hôtel parisien de la vente de 1 kg de cocaïne à des dealers. Par qui ? Par des flics. Se pose ensuite la question par les journalistes du Canard Enchaîné pour en faire don aux orphelins de la police. Point d'interrogation, mais non, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc c'est édifiant. Cet article est vraiment extrêmement intéressant. Alors donc, déjà, bon, vous parlez en début d'émission dans les petites brèves, là, dans les faits divers, de ce CRS qui lui avait été poursuivi devant les tribunaux pour culture personnelle de cannabis, qui s'est pris une amende de 600 euros. Bon, on se demande pourquoi, hein, quand on lit un peu tout ça, les combines entre l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants et des dealers pour coincer d'autres dealers plus gros. Enfin voilà, c'est dingue. En fait, ce que ça dit là, c'est que dans une partie du cannabis ou des drogues en fait, qui circulent en France, une partie de ces produits ne sont pas introduits par des trafiquants, mais par la police. Voilà. Ces produits sont ensuite vendus à des consommateurs qui peuvent par ailleurs même être arrêtés pour consommation de cannabis ou possession de cannabis, voire même prendre des peines de prison, alors que c'est la police elle-même qui a fait rentrer la drogue sur le territoire français. C'est absolument incroyable, c'est d'un cynisme sans précédent. Mais voilà un peu aussi ce que sont les dessous de la prohibition des drogues, des flics ripoux, des manips et des entourloupes de la justice et une guerre des services également, parce que là, on l'a vu dans cet article, à un moment, le magistrat préfère donner l'affaire à la brigade des stupes plutôt que poursuivre de travailler avec l'Octis. Enfin voilà, c'est assez dingue. Donc raison de plus pour changer de système politique et juridique sur les drogues. Et maintenant aussi un communiqué de presse du cirque d'hier intitulé Octis, flic ou voyou. Donc je vais vous lire ce nouveau communiqué de presse du cirque. Voilà, on se souvient encore des images de monsieur François Hollande fanfaronnant en compagnie de son ministre de l'Intérieur, tandis que ses membres de l'Octis leur présentaient une de leurs meilleures saisies et leurs saisies records de drogue, de la résine de cannabis. En l'occurrence, c'est notre président de saluer sans rire un coup fatal porté au trafic. Mais le roi est nu et les autorités peuvent toujours pérorer. Le constat est sans appel, la prohibition des drogues est un échec total et ses conséquences sont de plus en plus inquiétantes. Quand ce ne sont pas les règlements de compte sanglants entre et leur lot de victimes collatérales, ce sont les affaires de corruption de policiers, des BAC, Brigade d'Anticriminalité de Marseille, pour ne citer qu'un exemple, qui viennent régulièrement occuper les rubriques des faits divers. La dernière en date, et non des moindres, est révélée donc dans le numéro du 23 mars du Canard Enchaîné. L'IGPN s'intéresserait en effet de près aux méthodes de l'Octis, dont le patron, M. François Thierry, pourrait sauter prochainement. Selon le quotidien satirique, il ne serait de plus en plus difficile de distinguer ses membres de ceux du milieu criminel. Décidé à obtenir des résultats coûte que coûte, l'Octis s'intéresse, n'hésite plus à inviter ses indics, les fameux tontons, à balancer leurs concurrents avec l'assurance de pouvoir continuer leur business. Comment prétendre alors lutter contre le trafic ? J'en reviens donc aux pétitions dont je parlais tout à l'heure. Plusieurs pétitions tournent actuellement sur les réseaux sociaux, demandant chacune à sa façon que soit reconsidérée la politique française des drogues. Donc la fameuse pétition lancée par la Fondation Antonin Artaud pour une approche alternative de l'addiction et des toxicomanies est intitulée « Défendons le progrès, la santé, les droits humains au sommet mondial des drogues de l'UNGAS ». Elle appelle la France à adopter lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de l'ONU sur la question des drogues une appose plus progressiste à l'égard des usagers notamment. La deuxième est une initiative des professionnels de l'addictologie, donc les docteurs Michel Hautefeuille et Emma Vivorca, dont les prises de position anti-prohibitionnistes ne peuvent qu'interroger sur la légitimité de la prohibition. Et son titre a le mérite d'être clair, il faut légaliser les drogues, deux points, prohiber tue. Et enfin, la dernière est la dernière pétition lancée dans le cadre du 40e anniversaire de l'appel du 18 juin, relancée donc par la Fédération des cirques et qui appelle l'abrogation de l'article L3421-4 du Code de la Santé publique et la sortie de la prohibition du cannabis avec l'Organisation d'États généraux. Chacune a le mérite de poser une seule et même question. Qu'attendent les autorités pour enfin se saisir sérieusement de la question des drogues ? Que la société civile s'en empare à son tour, peut-être ? Voilà, voilà. En ce qui concerne les pétitions, dernière petite pause musicale avant de partir faire un petit tour aux États-Unis. Avec la guerre à la drogue de Nixon, mensonge d'État visant à casser la communauté noire et les Noirs exclus du marché légal du cannabis. Et si on nous reste encore un peu de temps, on parlera de ce qui s'est passé à Tanger dernièrement. Allez, un peu de musique. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Eh ben, je sais pas. On va voir. À tout de suite.
Toujours elle m'accompagnait, même la nuit au Calais. Au Calais. Et pourquoi elle m'aime tant? Non, je ne sais pas. Demande-lui peut-être qu'elle, elle te dira, elle est dans ma vie. Au Calais. Je l'emmène dans les fêtes et les cinémas. Elle ne regarde personne, elle ne brûle que pour moi. Mais j'aime sa taille et sa couleur. Mais ses mèches rouges et sa douceur. Reviens un autre jour, toi le visiteur. Je ne reçois personne, je ne suis pas à la hauteur. Je reste tranquille avec ma colombienne. J'ai un faible pour elle, il faut que tu comprennes. Naturel comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, elle m'a inspiré ce poème. Elle est naturelle comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime. Ouh, 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 oui. Elle sent le soleil, elle est comme un fruit. Je remercie le ciel, la terre et la pluie pour Cali. Oh, Cali. Elle me donne mon inspiration et m'apaise lorsque monte la tension dans ma vie. Il n'est pas question de se cacher, non. C'est une passion qui est déclarée, oui. On peut bien tenter de se mettre entre nous. Certains vont essayer mais sont devenus fous. Reviens un autre jour, monsieur l'inspecteur. Je ne reçois personne, je suis dans mes vapeurs. Je reste tranquille avec ma thaïlandaise. Dehors il fait froid, ses yeux sont de la braise. Naturel comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, elle m'a inspiré mon poème. Elle est naturelle comme j'aime, j'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime, comme j'aime. Au milieu de la nuit, parfois je la touche. Sur un grand lit de feuilles, je rêve qu'elle se couche. Je l'ai entre mes doigts, je la porte à ma bouche. Alors je me réveille, l'embrasse et me recouche. Pas la peine de sonner à ma porte. Aujourd'hui y'a pas moyen pour que je sorte. Je reste tranquille avec mon africaine. Il n'y a qu'elle qui me convienne. Qui me convienne. Naturel comme j'aime, j'ai
allumer ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime. Elle m'a inspiré mon poème. Elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle. Oui, elle est naturelle comme j'aime. Oui, comme j'aime, comme j'aime. Elle est naturelle comme j'aime. J'ai allumé ma flamme pour elle. Elle est naturelle comme j'aime.
Allez, on y retourne, les 10 dernières minutes de ce Cannabis Circus de ce lundi de Pâques aujourd'hui. Voilà, on repart donc, comme je disais, aux États-Unis. On traverse l'Atlantique avec cet article de Slate.fr particulièrement intéressant, où on apprend, d'après Aude Loriot, qui a été publié d'abord dans Le Monde du 27 mars. C'est un conseiller en fait de Richard Nixon qui aurait affirmé il y a 20 ans, donc c'est pas nouveau, un journaliste du magazine Harper's, que le gouvernement était bien conscient de mentir sur les drogues, que les véritables ennemis étaient la gauche pacifiste et les Noirs en 1970. Alors, quand on connaît un peu l'histoire de la prohibition des drogues, c'est pas très surprenant, c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis longtemps, mais quand même, quand là, c'est vraiment affirmé par un proche de l'administration Nixon, c'est quand même assez retentissant. Voilà, donc, qui est cette personne ? En fait, c'est John Ehrlichman, qui était un ancien conseiller de Nixon à la Maison-Blanche. La stratégie en fait mise en œuvre par Nixon à l'époque, qui était soi-disant là pour justement lutter contre la consommation de drogue, également allouer des moyens pour la réinsertion, le soin. D'ailleurs, l'administration Nixon est historiquement un gouvernement américain qui a alloué le plus de moyens sur le traitement de l'usage de drogue, mais ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus alloué à des entreprises policières. Voilà un peu tout ce qu'on peut lire. Alors, ces déclarations avaient été rapportées par un ancien journaliste du New Yorker et contributeur pour Harper's dans l'édition du mois d'avril du magazine. Voici ce que déclare le journaliste. À cette époque, j'étais en train d'écrire un livre sur la politique anti-drogue. J'ai commencé à poser des questions à Ehrlichman, une série de questions candides à côté de la plaque qu'il a balayé d'un revers de main. Et il a dit, voilà, vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce dont il s'agissait, a-t-il demandé au journaliste d'un ton direct. L'équipe de campagne de Nixon en 68 et la Maison Blanche, par la suite, avaient deux ennemis, la gauche pacifiste et les Noirs. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être pacifiste ou noir. Mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. On pouvait arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leurs rassemblements et les diaboliser jour après jour dans les journaux télévisés. Est-ce qu'on savait qu'on mentait à propos des drogues ? Bah oui, bien évidemment. Alors, le John Ehrlichman qui a fait ces déclarations est mort en 1999. Il n'est donc pas possible de vérifier ces déclarations aujourd'hui. Mais d'après un autre journal, Mic.com, un certain nombre de faits troublants viennent accréditer cette thèse. Par exemple, les peines de prison qui ont été considérablement plus élevées pendant des années pour les consommateurs de crack, un dérivé moins cher de la cocaïne, que pour les consommateurs de cocaïne. Une personne en possession de 5 grammes de crack écopait de la même peine qu'une personne interceptée avec 500 grammes de cocaïne. Or, la cocaïne est un produit de blanc, cher, et le crack, un produit pauvre, du fait de son prix, est donc plutôt consommé par les noirs. Ce système, qualifié par beaucoup de chercheurs de raciste, a été mis au jour, il y a 4 ans, en 2012, par Michel Alexander, dans un livre intitulé « The New Jim Crow, Mass Incarceration in the New Age of Colorblindness ». Voici ce qu'elle disait dans une interview qu'elle avait accordée à Rue 89 il y a quelques années. Le plan a parfaitement fonctionné. Pendant plus d'une décennie, les toxicos et les dealers black ont fait la une de la presse et des journaux télé, changeant subrepticement l'image que nous avions du monde de la dope. Malgré le fait que depuis des décennies, toutes les statistiques montrent que les noirs ne vendent ni ne consomment plus de drogue que les blancs, le public en est arrivé à associer la couleur noire avec les stupéfiants. À partir du moment où dans cette guerre l'ennemi fut identifié, la vague de répression contre les noirs a pu se déployer. Donc c'est des révélations dans le journal Harper's viennent donc renforcer une hypothèse déjà largement étayée par la recherche. Dans un contexte de tension entre autorités policières et militants du mouvement Black Lives Matter, et ont aussi accessoirement fait exploser les visites du site internet du magazine, on n'en doute pas. Donc voilà, une preuve supplémentaire, s'il en est, du caractère clairement raciste des politiques des drogues. Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé en France avec la loi de 70. La loi de 70, donc votée en 1970, donc 2 ans après le mouvement de mai 68, cette panique en fait, cette panique morale qui s'est emparée d'une partie de l'intelligentsia du monde politique français et qui a réclamé, avec campagne de presse à l'appui, l'intervention des pouvoirs publics pour mettre en place une loi en fait pénalisant clairement l'usage des drogues. C'est aussi un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en pénalisant les drogues en France, on a pu criminaliser des militants et également des Français issus des minorités, issus de l'immigration bien souvent. Voilà, donc ça marche un peu près partout, hein, ce genre de processus. Mais là au moins c'est clair. Et donc c'est une raison de plus pour demander, encore une fois, un changement de politique sur les drogues et sur le cannabis. La fin de cette criminalisation des usages et donc un changement de politique pourrait être une sorte de mesure qui permettrait également de lutter contre le racisme. Mais attention, légaliser les drogues et le cannabis, ça ne veut pas dire que tout racisme est abandonné. Alors c'est aussi toujours dans slate.fr. Et là, de quoi nous parle-t-on ? On nous parle des boutiques de cannabis dans le Colorado, dans l'Oregon, dans l'état de Washington, ou actuellement, alors ce qui va se passer dans l'Alaska, etc. C'est-à-dire qu'on a légalisé et du coup, y a des boutiques qui sont ouvertes. Sauf qu'il y a un problème, c'est que les Noirs sont très peu à tenir ces boutiques. On les recrute pas. Alors comme ce que je viens de dire juste avant au sujet de la criminalisation des usages, eh bien, on a surtout criminalisé les Noirs ou les minorités. Et que pour travailler dans une boutique qui existe déjà dans certains États qui ont légalisé, eh bien on recrute d'abord des gens qui n'ont pas de casier judiciaire. Du coup, qui reste-t-il ? Des Blancs qui tiennent des boutiques de cannabis. Donc finalement, la discrimination existe toujours, c'est vraiment incroyable. Actuellement, il y a quand même des recherches qui ont été menées. Il y a une journaliste qui travaille là-dessus, Amanda Chicago Lewis. Elle nous parle de statistiques officielles qui n'existent pas, certes, mais cette journaliste a quand même mené plus de 150 interviews avec des gens travaillant dans le milieu et a pu établir une estimation du nombre de points de vente tenus par des Noirs. Un peu moins de 3 douzaines des 3200 à 3600 boutiques. Un peu moins de 3 douzaines, voilà. Donc, soit environ 1% des boutiques aux États-Unis sont tenues par des Noirs. Finalement, le racisme perdure, y compris dans un système de distribution légale. On s'arrange pour que ceux qui vendent ne soient pas des Noirs. C'est absolument incroyable, mais c'est pas très surprenant. Donc, voilà ce que déclare, par exemple, un homme noir qui se fait appeler The Distributor en Californie. Il dit comme ça, mais même quand on se dit « Ok, tout le monde peut rentrer dans la légalité », est-ce que les Noirs le croient ? Est-ce que les Hispaniques le croient ? Quand ils criminalisent les gens, et notamment quand vous devez combattre cette idée que vous êtes un criminel depuis si longtemps, vous venez me dire qu'il suffit d'un coup de baguette pour que la transition se fasse et qu'on accepte de vous croire. Voilà comment se termine l'article. Visiblement, il faudra bien plus, beaucoup d'autres combats pour que cessent ces discriminations et que des Noirs puissent également, dans les mêmes proportions, ou en tout cas dans des proportions bien plus importantes, puissent également tenir des officines, des, des cannabis shops, des coffee shops au Colorado, en Alaska, en Oregon, dans l'État de Washington. Parce que ben, pour l'instant, ça n'avance pas et ce ne sont que des blancs, quasiment, qui tiennent ces officines. Voilà un peu à ce niveau. On va très bientôt se quitter, juste avant de partir. Donc, je vous rappelle que également se tenait à Tanger un colloque international dédié à la question des drogues avant la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies de l'UNGAS. Qu'est-ce qui se passe au Maroc ? Ben, de plus en plus, on en parle également régulièrement depuis plusieurs années. Beaucoup de personnalités au Maroc veulent que le cannabis soit cultivé dans une optique autre que pour la production de drogue, mais que c'est une ressource et que le Maroc ne peut pas se priver de cette ressource et que la question de la culture du cannabis ne doit plus être un tabou, mais que justement il doit y avoir un débat pour changer de manière d'aborder cette question au Maroc. Le PAM et l'Istiklal qui avaient lancé il y a plus de 2 ans une proposition de loi tendant à réguler et à légaliser la culture du cannabis. C'est également maintenant au tour du Conseil économique et social et environnemental de la région de Tanger-Tétouan qui se prononce pour un changement de politique aussi sur cette question au Maroc. Et visiblement, le Maroc devrait être un acteur, j'espère, important de cette session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York entre le 19 et le 21 avril prochain. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour Cannabis Circus aujourd'hui, lundi de Pâques, lundi 28 mars 2016. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus, toujours à 21h, de 21h à 22h sur la plus rebelle des radios, Radio Canu. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a également toutes les infos disponibles au sujet des pétitions qui circulent sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Maintenant, c'est Chasseurs de Sons. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.